C'est Jérémy. Petit message avant de découvrir votre épisode du jour, pour simplement vous demander un petit coup de pouce en quelque sorte. Je viens de prendre mon téléphone et j'ai remarqué comme quoi je suis uniquement à 12 avis d'atteindre les 200 évaluations sur Apple Podcast. Donc si jamais vous possédez un appareil de chez Apple, prenez quelques petites minutes, si jamais le cœur vous en dit, pour me laisser un avis, idéalement 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, pour m'aider à mieux faire référencer mon podcast. Sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode. Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast pour une nouvelle interview. Je reçois régulièrement des experts de leur domaine afin qu'ils vous partagent la synthèse de leurs recherches pour vous donner des outils simples et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé ainsi que vos capacités cognitives. Comme souvent, ces interviews sont très denses en informations. C'est pourquoi je vous invite à télécharger dès maintenant la fiche résumée de l'échange que je vais avoir en cliquant sur le premier lien présent en description afin de vous assurer de tirer pleinement bénéfice des conseils de mon invité. Bonjour Léo.
Salut Jérémy.
Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation.
Avec plaisir.
Ça fait très longtemps que je souhaitais parler de respiration sur le podcast. J'ai un peu creusé ce sujet-là, notamment au travers du travail de Pierre Dufraisse, que tu connais très bien.
Bien sûr.
Mais je ne me sentais pas légitime vraiment pour en parler en détail, donc j'ai souhaité t'inviter. Toi qui es assez connu en francophonie sur ce sujet-là, et notamment sur la respiration Wim Hof, dont réellement tu es un des principaux représentants français à l'heure actuelle. Et justement, je voulais parler avec toi tout au long de ce podcast-là, de la respiration de façon générale, des bénéfices aujourd'hui malheureusement encore trop peu connus de la respiration, de pourquoi, si paradoxal soit-il, il est important d'apprendre à respirer, alors que c'est une habitude, on va dire, logiquement naturelle.
Sinon, il y a plein de choses qu'on doit réapprendre à faire.
C'est vrai, il y a beaucoup de choses, la posture aussi en fait partie, etc.
Oui.
Et déjà, j'aimerais t'amener tranquillement ensemble sur la respiration Wim Hof, qui est donc à nouveau ton expertise principale. Peux-tu commencer par définir ce qu'est cette respiration-là, tout simplement,
oui,
pour les personnes qui ne la connaissent pas encore une fois.
Bien sûr. Donc, la respiration Wim Hof, c'est une technique de respiration. Et ça, déjà, c'est une chose importante, parce qu'il y a dans tout ce qui est méthode, technique et protocole, il y a souvent un peu de confusion. On peut appliquer des protocoles, on peut utiliser des techniques mais sans forcément mettre en place des protocoles, ou alors on peut intégrer une partie de la méthode ou être fan d'une méthode, et tout ça c'est différent. La respiration Wim Hof, du coup, c'est une technique qu'on peut utiliser dans un protocole, et il y a plusieurs protocoles dans la technique respiration Wim Hof des bases, il y a plusieurs protocoles dans les techniques respiration Wim Hof avancées, dites power breathing, et il y a d'autres techniques de respiration Wim Hof, sachant que la respiration Wim Hof est aussi un pilier de cette méthode, parce que la méthode a d'autres piliers, bien sûr, l'exposition au froid, la respiration, et les travails sur la partie mentale, la persévérance, la gestion du stress, les focus, etc.
Ok, mais c'est vrai que la respiration, d'après ce que j'ai pu comprendre, vraiment est au cœur de la méthode développée par Wim Hof aujourd'hui. C'est ce qui permet justement de l'immersion au froid, une meilleure concentration également, une meilleure motivation.
Oui, parce que... c'est ça. Pardon, je t'ai coupé.
Non, mais vas-y.
Non, je voulais dire qu'effectivement... les trois piliers sont le cœur de la méthode, mais la respiration permet ce qui est les liens entre les corps et les mentales, ou les conscients et les subconscients, et donc c'est une bonne porte d'entrée. Et finalement, ça permet, surtout au démarrage, aux débutants, de pouvoir apprendre aussi l'immersion dans les froids. Mais après, on voit qu'en pratiquant par la suite la méthode Wim Hof, on peut apprendre aussi à dissocier ces deux pratiques si on veut le faire. Mais c'est pas forcément mieux. C'est pas non plus obligatoire, mais comme porte d'entrée, en général, une technique de respiration peut aider à retrouver le lien corps mental, ça veut dire à être capable de partir dans un état des centrages et des contrôles ou d'équilibre dans lesquels nous sommes très performants, ou alors on pourrait parler des potentiels dans lesquels on peut exprimer mieux notre potentiel, et donc ça nous aide à aussi affronter les défis. Donc au moment où on est un peu challengé, si on est déjà centré, prééquilibré, on a plus de chances de réussir.
Super intéressant. Avant de voir justement le lien entre, comme tu as commencé à le dire, la respiration Wim Hof et tout ce qui est concentration, motivation, sécrétion également hormonale, tout ça en lien évidemment avec le système nerveux autonome, peux-tu déjà nous décrire ce qu'est le protocole de respiration Wim Hof ? Concrètement, il y a un seul protocole, sauf erreur de ma part. En quoi consiste-t-il ? Est-ce qu'on peut induire des variations selon son niveau ? Est-ce que tout le monde peut le faire ou non ? Vraiment, comment ça se passe concrètement ? Moi, demain, je veux faire une session Wim Hof. Qu'est-ce que je dois faire ?
Oui, je vous l'explique et puis je vous donne des références si vous voulez les faire à la maison. Comme ça, vous avez la
Super.
théorie et la pratique. Donc, les protocoles des bases, parce que, comme je te disais, il y a plusieurs techniques aussi. Les protocoles des respirations Wim Hof des bases, qui sert à l'équilibre du système nerveux autonome. On peut parler des resets du système nerveux autonome. Et donc, ça permet, en fait, souvent de baisser les stress et se régénérer, avoir plus d'énergie. C'est un peu ce que la plupart des gens l'utilisent pour ça. Ça permet aussi de travailler avec les émotions et ça permet aussi d'autres choses, mais ça vient un peu après. Et bien sûr, ça nous prépare aussi à l'exposition au froid, est constitué d'environ une trentaine, je dis environ, parce que comme il explique Wim, ou alors il expliquait plus avant, quand je me suis formé avec lui, mais aujourd'hui, il dit, voilà, les protocoles, c'est 30 respirations. Mais je vous expliquerai, si vous êtes intéressé, pourquoi c'est pas exactement 30. Mais disons 30 respirations yogiques complètes. C'est une façon de respirer. On utilise la capacité pulmonaire totale. On utilise l'activation de plusieurs muscles respiratoires en partant du bas vers le haut, les diaphragmes, les intercostaux et d'autres muscles comme les trapèzes, les scalènes, etc. Voilà. Et on fait donc une inspiration complète et on expire de façon relâchée. Ça, c'est important aussi. C'est qui correspond donc à la respiration yogique, qu'on l'appelle comme ça, ou la respiration complète. Il y a d'autres noms. On les fait 30 fois de façon cyclique. Inspire, expire, sans pause. Donc, on néglige les temps des pauses inspiratoires et expiratoires, ça veut dire il n'y a pas d'apnée. Là, on fait juste des respirations. Ça s'appelle la respiration connectée. On fait ça sur un certain rythme. Il y a plusieurs rythmes possibles en fonction de l'objectif, mais disons que sur la technique des bases, c'est un rythme de quelques respirations par minute qui peut aller des 6 à 12 respirations par minute environ. Voilà, pour vous donner une idée. C'est pas 50 respirations par minute, c'est pas 2. Ça, c'est important aussi. Et après ces 30 respirations, qui va prendre donc quelques minutes à faire, on fait une apnée poumon vide, mais pas totalement vide. On n'a pas la capacité résiduelle expiratoire, ça veut dire on n'a pas tout vidé et il reste que les volumes meurent et quelques espaces. On a juste expiré de façon naturelle, ce qui permet d'avoir une pression dans les poumons neutre par rapport à la pression externe, ce qui nous permet de nous détendre. Quel est l'objectif de cette phase d'apnée, entre autres? Il y a aussi des objectifs biochimique, mais il y a aussi des objectifs psychophysiologiques. Et pas que, voilà, il y a plusieurs dimensions, hein, dans la respiration. Et on fait cette apnée qui n'est pas timée. Ça veut dire que chacun fait son apnée à lui, en fonction de ses capacités. Et puis, là, on inspire. Et là, on fait une autre apnée, mais poumon plein. Et ça, c'est 10-15 secondes. Ça, c'est timé. C'est plus ou moins les protocoles, c'est ça. Et ça, c'est un cycle. Et les protocoles des bases, comportent généralement 3 à 4 cycles. Voilà. Et finalement, c'est vraiment pas. Alors, c'est pas compliqué comme technique, mais c'est pas la technique la plus simple à mettre en place tout de suite tout seul, parce que vous voyez, il y a plusieurs étapes, plusieurs détails. Mais si vous voulez la faire, moi j'ai fait des vidéos YouTube de la respiration Wim Hof en français, donc ça vous suffit de mettre start et vous les faites à la maison. Et moi j'ai utilisé des protocoles pour tout le monde. Donc là, vous pouvez pas vous tromper, donc ça va aller. Mais effectivement, de la faire tout de suite tout seul. C'est pas évident, évident, parce qu'il y a plusieurs étapes.
Super intéressant. Effectivement, comme tu l'as mentionné, on n'en a pas parlé, mais tu as une chaîne YouTube à ton niveau où
Oui,
tu
tout à
présentes
fait.
des protocoles, où tu parles des respirations, des bénéfices.
Oui.
Également, tu es auteur de deux livres, il me semble, aux éditions Exuvie. Donc, bonjour déjà à Fabien Moine, que l'on connaît, toi et moi. Et bien évidemment, je mettrai tous ces éléments dans la fiche résumée de l'échange, où je mettrai les liens, entre guillemets, intéressants pour commencer, du moins, dans la
Oui.
respiration Wim Hof et pour découvrir ton travail, évidemment, en détail. La respiration Wim Hof, comme tu l'as dit, en fait, elle a. Alors déjà, première question effectivement qui me vient à l'esprit, est-ce qu'un débutant peut la faire? Parce qu'effectivement, c'est quand même assez challengeant comme respiration. Notamment, tu parles de rétention poumon vide. Le corps humain n'aime pas ça. On n'est pas fait pour retenir la respiration avec ses poumons vides naturellement, parce que ça induit un stress, c'est un inconfort, parce que littéralement le cerveau, comment dire, interprète ça comme une menace pour son intégrité, pour notre survie. Donc, est-ce qu'un débutant, on va dire vraiment débutant en respiration, peut commencer par du Wim Hof, ou est-ce que tu l'enverrais toi naturellement sur d'autres protocoles pour déjà se familiariser au fait de respirer en pleine conscience?
Alors là, on rentre dans l'univers de la respiration qui effectivement est bien ample. Il y a plusieurs portes d'entrée. Si quelqu'un arrive au monde de la respiration pour la Wim Hof, c'est bien. Je suis content pour lui parce qu'il a découvert le monde de la respiration et c'était mon cas. C'est vrai que c'est pas forcément la technique pour apprendre à bien respirer, mais ceci dit, c'est une bonne technique pour commencer à faire un travail intéressant sur la respiration. Et si on a commencé avec ça, c'est bien aussi. Par contre, dans un certain temps, après quelques mois des pratiques de la respiration Wim Hof, ça serait bien de s'intéresser de façon plus générale au monde de la respiration pour mettre en place une base stable qui puisse durer dans les temps. Et c'est ça qui m'a poussé à écrire deux livres sur la respiration. Parce que j'ai vu qu'effectivement, la respiration Wim Hof est juste un des éléments du monde de la respiration et ça suffit pas tout seul, même si c'est une très bonne technique. Pour les débutants, il n'y a pas de souci à commencer par ça. Pourquoi? Parce qu'on dit dans la technique de ne pas forcer. Il n'y a pas des records à faire avec l'apnée. Et donc, si quelqu'un il est vraiment pas confortable à faire l'apnée poumon vide, eh ben, ça va durer peut-être 5-10 secondes. Et... OK, c'est OK. On s'attache pas au résultat. OK, c'est court. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à débloquer. Et alors là, ça serait intéressant qu'il y ait un coach en respiration ou quelqu'un lui dise, voilà ce que tu pourrais faire à côté. Mais c'est pas un problème. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos YouTube où les gens peuvent les faire. Parce qu'en faisant comme je l'ai décrit, je la fais faire dans ces vidéos-là, on peut pas se tromper. Mais effectivement, on pourrait faire autre chose où on peut se tromper. Donc, je vous invite aussi à suivre, des ressources qui puissent être adaptées à vous. Et des vidéos, par exemple, avancées ou d'autres vidéos YouTube qu'on trouve sont pas forcément adaptées aux débutants.
C'est intéressant ce que tu dis parce que tu replaces littéralement l'individu au cœur du système et du protocole. Aujourd'hui, on a souvent tendance à dire aux personnes, faites ceci. Mais personne ne dit, en fait, avant de faire ceci, écoutez-vous. Le bon exemple par rapport à ça, ce sont les douches froides où très souvent on dit voilà, une douche froide, ça a été prouvé scientifiquement, ça apporte tel bénéfice à partir de X minutes immergé dans une eau à X degrés. Ok, mais où sont les ressentis? Où est le corps humain derrière? Où est l'individu? Parce qu'effectivement, tenir X minutes à X degrés, ça peut être simple pour moi si ma nuit s'est bien passée. Si je n'ai eu que des bonnes nouvelles. Si mes enfants n'ont pas été compliqués. Par contre, passer X minutes avec les mêmes X degrés, si ma nuit était catastrophique, si j'ai appris un décès, si tout se passe mal, ça sera beaucoup plus difficile. Et du coup, là, on parle un peu d'hormèse, mais le rebond positif ne sera pas présent. On sera plus sur une contrainte, sur une douleur, que sur un effet positif. Et c'est la raison pour laquelle le mieux, façon de parler, il n'y a pas de mieux, mais le levier principal, vraiment, c'est de s'écouter. Et comme tu l'as dit, si on voit que Wim Hof, le protocole proposé est trop compliqué, ok, on diminue le rythme. On y va soi-même et on ne s'impose pas une contrainte qui va dépasser nos capacités adaptatives. Donc, oui, merci pour cette précision vraiment importante.
Oui, et c'est important de comprendre que tout ce qui ont fait, tout ce qui ont vit a un effet synergique, les choses entre elles. Et ça, c'est un peu difficile à comprendre parce que des fois, on raisonne de façon linéaire. Et ça, c'est aussi la démarche scientifique. Souvent, elle a tendance à pouvoir rendre les choses un peu plus simples pour qu'on puisse les décrire. Mais finalement, des fois, ça peut aussi nous porter loin. C'est aussi là toute la difficulté aujourd'hui qui voit les scientifiques dans les mondes du vivant et dans la machine du corps humain, mais encore plus dans tout ce qui est le mental, ou alors encore si on va dans la physique quantique. Voilà, et on voit que là, finalement, les choses sont pas si linéaires que ça. Et il y a même des questions, des fois, qui se posent sur la démarche scientifique en elle-même. Mais en tout cas, on a des protocoles, c'est des lignes guides pour comprendre un peu qu'est-ce qui pourrait être bien. Mais rien ne peut remplacer quelqu'un qui nous guide des personnes et rien ne peut remplacer aussi notre propre guide de soi-même parce que nous devons aussi apprendre de nous-mêmes et sur nous-mêmes. Donc effectivement, c'est important de trouver les justes équilibres dans toutes nos pratiques qui sont synergiques. Les pratiques positives comme les pratiques négatives. Les pratiques négatives aussi, ils ont des synergies. Comme tu dis, je suis stressé, fatigué, j'ai mal dormi, et en plus, je me prends un stress excessif par rapport à une chose X ou Y qui peut être bien dans un autre contexte. Et bam, je tombe malade. Et pourtant, cette dernière chose que j'ai fait est hyper bonne pour la santé. Il y a des études scientifiques qui le disent. Mais ça peut être l'inverse aussi sur les côtés positifs. J'ai fait plein de petites actions qui, toutes seules, ne sembleraient pas être des choses très virtuoses. Et finalement, les résultats, c'est que je suis en pleine forme. Comment ça s'explique? Et des fois, on voit des personnes qui font tout un tas de choses catastrophiques qui vont bien, et on voit des personnes qui font tout un tas de choses bien qui vont mal. Et si, ben ça, c'est l'effet des synergies. Il faut comprendre qu'il n'y a pas des techniques, des méthodes, mais c'est très complexe. Et donc, la méthode Wim Hof, moi, j'ai toujours appris avec Wim qu'effectivement, il y a des protocoles pour comprendre un peu, pouvoir l'étudier, pouvoir reproduire, mais qui est la base et aussi pouvoir s'écouter dans la pratique. Et c'est le troisième pilier de la méthode qui est largement négligé par les pratiquants de la méthode Wim Hof. Moi, j'insiste à mes stages, mais je vois que c'est la chose la plus difficile à intégrer parce que les piliers du mental dans la méthode Wim Hof, c'est pas qu'est la persévérance dans la pratique, c'est pas qu'est la gestion du stress, c'est pas qu'est la concentration et l'observation des sensations, mais c'est vraiment un travail sur son ego pour des fois ne pas se faire guider par la montre, par les autres, par les réseaux sociaux, par l'envie de montrer. Moi, je suis tombé dedans plusieurs fois, c'est pour ça que je l'ai appris. J'ai aussi 8 ans de pratique et donc je n'ai fait des erreurs. Donc, je les vois encore sur moi, qui en fait, je ne peux pas faire les choses tout le temps de la même façon. Parce que maintenant, sinon, je ferais des bains de glace 3 fois par jour, pratiquement tous les jours de ma vie, si je devrais suivre tout ce que je vais faire dans mes stages. Et donc, je comprends bien la différence entre chronique et aiguë, ça veut dire ponctuel et tout le temps. Mmh. Je vois bien la différence entre quand tu es en pleine forme ou pas. Je vois bien la différence entre une pratique qui est adaptée et une pratique qui n'est pas adaptée. Mais cela demande un peu de temps. Donc, il faut quand même partir quelque part, c'est le protocole, avec un coach ou un maître. Vous voulez, si vous êtes dans les arts martiaux, vous allez l'appeler maître. Si vous êtes pas dans les arts martiaux, vous allez l'appeler les coachs. C'est aussi un peu les rôles d'aller voir quelqu'un pour commencer. Et puis, c'est tout en route, un chemin. On va faire des choses tout seul et des choses, encore, on aura besoin d'être guidé. Moi, je me fais coacher encore sur plein de choses.
Tout comme moi, effectivement. Voilà. Oui. Il y a un modèle mental qui est intéressant pour résumer un peu tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. C'est la carte versus le territoire. Le protocole clé en main, c'est la carte. La carte, c'est une vision idyllique, idéale, parfaite d'un chemin pour passer d'un point A à un point B. Sauf que le territoire, c'est pas pareil. Des fois, des routes seront barrées. Des fois, il va pleuvoir. Des fois, il y aura de l'orage. Des fois, la petite bosse qu'on a cru voir sur la carte, en fait, sur le territoire, c'est une montagne à franchir. Donc, le protocole, effectivement, c'est la carte. C'est le plan idéal. Mais il y a le territoire, on fait avec le territoire, on fait avec le manque de sommeil, on fait avec les enfants, on fait avec les contraintes du quotidien pour adapter tranquillement le chemin qu'on va prendre sur le territoire, parfois au dépit de la carte, au dépit de ce qu'elle nous a dit au départ. Donc encore une fois, merci pour cette précision vraiment importante de l'importance de replacer l'individu au cœur des processus. Ensuite, déjà, tu parles effectivement de 8 ans de pratique. Ce n'est pas rien, très clairement. Et quand tu parles de pratique, c'est une pratique qui est comment? Comment tu pratiques Wim Hof au quotidien à ton niveau? Est-ce que c'est justement quotidien? Est-ce que c'est hebdomadaire? Est-ce que c'est selon ton ressenti, selon tes besoins? Comment tu pratiques, toi, la respiration aujourd'hui?
On va en parler longtemps. Alors, moi, je pratiquais régulièrement plusieurs choses. Donc, au début, j'ai commencé par la méthode Wim Hof. Et c'est vrai que du coup, j'ai pratiqué la méthode Wim Hof. Que ça soit les froids, la respiration et les travaux sous les mentales, tous les jours, qu'est ça. Donc, j'avais une certaine forme des pratiques de cette méthode, de ces protocoles, de ces techniques. Après, j'ai intégré dans mes pratiques quotidiennes tout un tas d'autres choses. Ce qui fait que des fois, j'ai fait des choix entre quelle technique que je vais faire ce matin, des respirations, quelle pratique du froid j'ai fait aujourd'hui, quel travail avec mon mental, quel travail avec mon corps. Et puis, ça change en fonction du temps que j'ai à disposition, de la saison, de ce que je vais faire après et avant. Donc, j'essaye d'adapter au maximum mes pratiques en fonction de mes besoins. C'est un peu ça, les fils conducteurs, de me dire de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Souvent, c'est pour me permettre d'être bien, d'être en forme, de pouvoir conduire mes projets à la réussite. Des fois, ce sont des entraînements. Des entraînements, ça veut pas forcément dire que je n'ai besoin, mais je me suis fixé un objectif de croissance et donc je vais peut-être pénaliser d'autres choses pour mettre l'énergie là. Mais je sais que ça va du coup prendre peut-être plus des ressources que de me les donner. Donc, c'est pas la même chose de se dire, je fais un protocole pour que cela me recharge, ou je fais un entraînement, et j'investis mes ressources là-dedans pour, dans les longs termes, réussir quelque chose. Donc, là, je suis en train de construire un entraînement particulier pour mon défi marathon, que voilà, on pourra en parler si on a le temps, si ça vous intéresse, mais du coup, j'allue beaucoup des ressources en termes d'énergie et du temps à ce qu'il y ait un protocole adapté pour réussir ces défis. Ça m'a fait du bien aussi, en général, mais je ferais peut-être autre chose si c'était que pour ma santé, mon énergie. Donc, c'est quand même une question ample. Pour ce qui me concerne, c'est vraiment tous les jours. Des fois, ça a été 15 minutes par jour parce que je pouvais pas allouer plus de temps à ça. Et des fois, c'est 3 heures par jour. Généralement, c'est le matin. Mais des fois, si les matins, je ne peux pas parce que je commence à 4 heures du matin, ça m'est arrivé, ben, je vais les faire les soirs. Des fois, c'est matin et soir. Et c'est toujours un assemblage de plusieurs éléments. Il y a sûrement de la respiration, il y a sûrement du travail avec les éléments, ça veut dire les froids, mais des fois ça peut être les chauds, ça peut être plusieurs éléments. On pourrait parler des postures, des mouvements, des yoga, il peut y avoir un travail de visualisation ou des méditations, il peut y avoir un travail sur la chrononutrition, la chronobiologie, les rythmes circadiens, les hormones, les jeûnes intermittents, les jeûnes, ou alors l'hormèse avec les gros repas. Et il peut y avoir plusieurs éléments dans la pratique. Et puis sûrement, là, j'oublie des choses. En tout cas, c'est régulier. Ça veut pas dire que si je saute un jour, voilà, je me mets en punition. Mais en tout cas, c'est plutôt régulier, ça veut dire tous les jours. Et par contre, c'est rare que je fasse la même chose tous les jours. Au début, okay. J'ai fait ça pour commencer. Au début, j'ai fait ça pour commencer. Voilà, c'est très bien. Ça m'a cassé les routines que j'avais avant qui n'étaient pas bonnes. Je crée des routines vertueuses. À un certain moment, là, je connais beaucoup d'outils. Et ça varie beaucoup. Ça varie beaucoup pour avoir de la variété, pour que je m'ennuie pas, pour que mon corps aussi voit des choses qui sont en évolution et avec un fondement commun. Et si je dois vraiment travailler sur un exercice ou une chose parce que j'ai un objectif, je peux le faire plusieurs fois la même chose. Mais c'est pas une seule technique, un seul exercice répété pour des années et des années, toujours à la même heure. Il y a plusieurs des choses qui sont en évolution permanente, je dirais.
C'est passionnant ce que tu nous partages. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit naturellement. En fait, ce que tu dis, c'est que tu as, toi, une boîte à outils. Mm. Tout simplement, tu prends l'outil le plus adapté, entre guillemets, aux travaux que tu as à faire. Mm-mm. Donc, soit de la maintenance, soit de l'amélioration, si on poursuit un peu justement la métaphore. Et l'autre élément assez intéressant, c'est que tu as dit explicitement comme quoi tu changeais d'exercice, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement. Et ça, c'est souvent un écueil dans lequel tombent les personnes, j'ai l'impression, c'est de faire un exercice et de le garder sur le long terme. Sauf que le corps humain étant bien fait, il s'adapte à l'exercice. Il va s'adapter à la contrainte qu'on va lui imposer. Et du coup, les bénéfices ressentis au jour 1 ne seront plus les mêmes qu'au jour 30. D'où l'importance, effectivement, d'induire ce que j'appelle moi tout simplement du chaos dans le quotidien. Donc parfois faire ceci, parfois faire cela. Et à mon niveau, j'ai tenté de le pousser à l'extrême, c'est de tirer ça au dé. Je lance des dés aujourd'hui, ok, je fais ça. Là, je fais ça, là, je fais ça. Sans pour autant à nouveau m'imposer quelque chose que je ne pourrais pas faire au niveau, on va dire, énergétique ou au niveau mental. Ou j'adapte potentiellement l'exercice à mes contraintes. Mais j'essaie d'induire un peu, effectivement, cette notion de volatilité au quotidien parce que nous sommes faits pour être volatiles. Et aujourd'hui, être linéaire, Nassim Nicolas Taleb en parle très bien, c'est s'exposer, en bout de course, à un risque assez énorme. Parce que quand on est linéaire, on va contre le vivant. Car le vivant n'est pas linéaire. Le vivant est chaotique. Donc, merci pour ce partage. Un élément que tu as abordé à plusieurs reprises, c'est l'impact de la respiration tout court, évidemment, et surtout Wim Hof, sur le système nerveux. Notamment l'autonome, comme tu l'as très bien dit, qui est décomposé en deux branches principales, qui est le sympathique et le parasympathique. Le sympathique étant, on va dire, l'action, on va dire, le fait d'être tourné vers l'extérieur, vers les autres, vers conquérir le monde. Et le sympathique, en plus, le côté « je suis introverti, je suis sur moi, je suis sur l'interoception, non pas sur l'extéroception ». Quelle branche du système nerveux autonome active, stimule, allume, on va dire, la respiration Wim Hof? Est-ce que c'est une des deux branches? Est-ce que ce sont les deux branches? Comment ça agit dessus concrètement, d'après tes connaissances?
La technique des bases, ça va vraiment agir sur les deux branches avec un effet d'équilibre. C'est pour ça que j'ai parlé des recettes. On peut imaginer un peu les côtés cohérence cardiaque, si vous voulez, pour travailler sur deux branches et retrouver un peu un équilibre qui, généralement, va tendre vers les parasympathiques. Ça veut dire que, généralement, on est un peu stressé. Et donc, on est un peu plus vers les sympathiques. Donc, l'équilibre va nous faire tendre vers les parasympathiques. Mais ça, c'est une généralité qui n'est pas vraie pour tout le monde. Parce qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui sont plutôt en tendance parasympathique. Et quand on va les équilibrer, ça les amène vers les sympathiques. Donc, la méthode Wim Hof, ça fait un peu ces côtés équilibre et set. Ce qui est assez bon parce que finalement, on repart du centre. Et ça, c'est un bon point de départ. On peut aussi, en jouant avec les rythmes, la quantité des respirations et les apnées, pouvoir pousser la machine plus vers les sympathiques ou les parasympathiques si on veut. Donc il y a des techniques qui vont plutôt nous dynamiser. Donc je les appelle les brides pour l'énergie quand on les fait dans les stages. Ou alors on peut utiliser des techniques clairement plus méditatives où on va respirer plus lentement, on va faire des apnées douces. Et donc là vraiment on va vers la branche introspection, régénération, détente, repos. Donc voilà pour vous dire un peu sur la méthode Wim Hof. Mais après il y a là si vous voulez jouer sur le système nerveux autonome, la respiration c'est un peu les manettes des prédilections parce que vous pouvez en 30 secondes basculer d'un côté à l'autre. C'est hyper rapide, hyper efficace. Alors ça veut pas dire qu'il y a pas d'autres manettes. On peut le faire avec les mouvements, on peut le faire avec juste un travail mental, on peut le faire avec l'alimentation, on peut le faire avec les éléments bien sûr. Mais avec la respiration c'est incroyable. On peut être hyper stressé et une minute après pouvoir aller vers la détente totale, être dans la détente totale et 30 secondes après être prêt pour un combat, juste en ayant changé notre respiration. Juste en allant. Après, bien sûr, on peut ajouter à ça plein de stimuli extérieurs pour rendre la chose plus forte, hein, mais donc là, vous pouvez vraiment savoir que si vous voulez travailler sur les systèmes nerveux autonomes, sous la respiration, c'est un des instruments les plus intéressants pour faire ce type de travail.
Et ce qui est intéressant, comme tu l'as dit déjà, il y a un double bénéfice par rapport à la respiration. Déjà, c'est à coût zéro. Littéralement, parce qu'on active des processus biologiques qui sont directement dans notre corps, biologiques et physiologiques. Et également, le cerveau humain étant justement enclin à conserver l'énergie, entre faire du sport et juste prendre le temps pour respirer, naturellement, on ira vers l'inspiration qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup moins taxante. Car à nouveau, le corps humain veut conserver son énergie. Donc, d'une part, c'est à coût zéro, et d'autre part, c'est à effort, je ne dirais pas nul, il y a un effort à produire, mais quasi nul. Donc, la dépense énergétique, et donc potentiellement le creux d'énergie juste après, ne vont pas être présents, contrairement à une grosse session de sport, par exemple, qui peut mettre sur les rotules, ça peut arriver. Donc, c'est un autre bénéfice, effectivement, à mettre au crédit de la respiration, selon moi.
C'est bien complémentaire à l'activité physique.
C'est complémentaire, oui.
C'est très complémentaire, et c'est pour ça que ça fait partie aussi des entraînements, à mon avis. Dans le sens où l'entraînement, il y a la partie physique. Après, il y a, à mon avis, d'autres parties. La respiration, souvent, c'est totalement oublié. Qui dit, aujourd'hui, je m'entraîne, et dans mon entraînement, j'ai une heure, et je fais 45 minutes de physique et 15 de respi. Très peu de personnes. Ça commence. Mais généralement, c'est vraiment pas vu comme un élément d'entraînement. Mais finalement, c'est l'est. Et moi, justement, mon défi de faire les marathons, en m'entraînant sur la respiration principalement, c'est justement démontrer que la respiration a un rôle très important aussi. Alors, mon défi est poussé à l'extrême, parce que bien sûr, ça serait mieux de faire aussi plus des parties physiques pour réussir un marathon. Mais moi, je veux justement ne pas les faire pour montrer qu'il y a quand même un rôle très important à la respi. Sinon, finalement, les gens seraient tentés de dire, mais oui, mais ton entraînement physique, c'est ça qui t'a permis de les faire. Mais comme je les fais pas, voilà, là, on pourra pas les dire.
D'après ce que je comprends de ton défi, c'est préparer un marathon sans préparer un marathon. Mais juste avec les respirations, c'est ça.
J'ai fait un marathon en respirant uniquement par les nez déjà.
Ok,
de
super.
Scotch sur la bouche.
On en parlera après de pourquoi c'est important effectivement la respiration nasale et non pas la respiration buccale,
voilà,
qui est un peu plus, on va dire, préjudiciable.
Et sans m'entraîner avec un protocole de préparation classique au marathon qui comporte beaucoup des courses, qui est normal, et des sorties longues. Mais je vais quand même me préparer. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas des préparations. Et ma préparation va être orientée principalement respiration. Ok. Mais après, je vais quand même courir quelques fois. Aujourd'hui, j'ai fait 5 km. J'ai fait un peu de travail de yoga et des postures, pour tout ce qui est hanches, bassin, psoas. Voilà, je ne veux pas non plus me mettre sur les rotules, comme tu dis, parce que l'objectif, c'est de faire quelque chose de bénéfique. Bénéfique dans les sens où un exemple sympa. Je ne veux pas me détruire en disant je fais un marathon sans me préparer. Ça n'a pas de sens pour moi. Mais je l'ai fait pour montrer un point. La respiration n'est pas du tout négligeable, surtout sur des sports d'endurance fondamentale comme les marathons. Et vu que c'est aussi une épreuve un peu iconique pour les sports, tu vois, t'as couru un marathon, ça, donc c'est incroyable. Et du coup, c'est pour dire, oui, je l'ai fait, et je ne suis pas un coureur, je ne suis pas extraordinaire, mais j'ai pris soin aussi de ma respiration, de mes poumons, ce qui est très important. Donc, pensez aussi à la respiration, c'est pour ça que je l'ai fait. Je ferai pas des temps rapides au marathon. Je me suis même pas donné des temps cibles. Et je ne vais pas être plus performant qu'un marathonien qui se prépare bien au marathon avec toutes ses sorties des courses. Donc, c'est pas pour remplacer d'autres protocoles. Même si je pense qu'en y travaillant un peu, on pourrait faire des choses sympas. Mais c'est juste pour montrer les points de l'importance de la respiration dans la préparation physique et dans les sports. Chose qui reste encore vraiment hyper négligée.
C'est vrai que c'est négligé et encore plus négligé dans le domaine auquel, on va dire, j'évolue, à savoir plus la productivité, la performance davantage cognitive et professionnelle. Autant au niveau du sport, on peut faire des liens. On peut en faire et des liens commencent à se faire également. De grands sportifs commencent à mettre en évidence effectivement le fait de dormir avec un scotch sur la bouche. On en parlera encore une fois juste après. On voit effectivement des changements également de stratégie respiratoire, par exemple durant un combat de boxe, au niveau vraiment des pauses. Donc respiration davantage nasale, plus buccale, on se recentre sur soi, on fait de l'introspection. Mais au niveau du travail, au niveau des startups, au niveau des personnes qui veulent justement, être performantes au niveau cognitif, ce lien se fait encore moins, j'ai l'impression. Pourtant, on a commencé à en parler un peu ensemble au départ de l'échange. Bien respirer, notamment par la pratique de Wim Hof, induit une meilleure concentration. Est-ce que tu vois, toi, d'autres, effectivement, bénéfices cognitifs
à bien respirer, à pratiquer Wim Hof en termes de clarté mentale, de réduction du stress aussi, évidemment, parce qu'on va en parler, de concentration, de productivité ou autre. Est-ce que tu as pu ressentir ça, toi, à ton niveau, parce que tu es entrepreneur en plus, et également chez les personnes que tu accompagnes ou dans des études que tu aurais pu lire à ces sujets-là?
Oui, bah c'est sûr qu'il y a un impact, il y a un impact sur les capacités, les performances cognitives. On peut même enlever du brouillard mental. Des fois, on se sent un peu en confusion par rapport à des choses. C'est vrai qu'il y a des pratiques de respiration comme la méthode Wim Hof, mais pas que, peuvent permettre aussi de clarifier un peu l'esprit, de retrouver un peu des lucidités, de revoir les choses dans une autre perspective. Parce qu'il y a un travail aussi sur les émotions. Il y a un travail aussi sur l'état émotionnel dans lequel on est, son niveau d'énergie. Donc, si on est dans une énergie basse, un peu déprimé, on va avoir les problèmes d'une certaine façon. Donc, on va travailler en termes des performances cognitives d'une certaine façon. Si on se met en énergie haute, on est dynamique, on va voir la chose d'une autre façon. On va, moi, je suis chef d'entreprise, donc c'est sûr que les décisions que je mets en place en fonction de mon état psycho-émotif, émotionnel, donc psychophysiologique, si tu veux, ne sont pas les mêmes. Mmh. C'est sûr. Et puis, il faut comprendre si on se fait guider par un certain état psychophysiologique, mental et physique. On va faire un certain type de choix pour répondre à cet état. Par exemple, si on est dans la peur, on va créer son business d'une certaine façon. Si on est dans la joie, dans l'optimisme, dans la confiance, dans la gratitude, on va faire d'autres types de choix. Et ça, c'est aussi par rapport au lien avec les collaborateurs. Donc, c'est sûr que faire une pratique. Alors là, on peut parler d'une technique de respiration si vous voulez, parce qu'il y a quelques minutes, on peut quand même agir sur ça. Ça nous permet, bien sûr, de faire un travail cognitif différent. En termes des choix, en termes des visions de la chose, et vraiment en termes des capacités cognitives, parce que si on est dans un état de stress, juste par l'effet de respirer de façon buccale, superficielle et rapide, dans cet état de stress, une partie de nos ressources cognitives, d'intelligence, vont être allouées à la réponse au stress. Donc finalement, c'est comme si on était en train de résoudre des problèmes compliqués en faisant de la boxe en même temps contre un adversaire. Vous avez déjà essayé? Des fois, vous arrivez même pas à répondre que 5 fois 5. On peut pas, parce que les ressources, on est en train de se battre. Donc, si vous êtes dans un état de stress chronique, mais vous le savez pas, parce que vous le tolérez depuis longtemps, et c'est peut-être lié à votre façon de respirer, un certain pourcentage de nos ressources vont être alloués à l'état de stress. Et ça peut être minime, mais non négligeable. Donc, peut-être on perd 5%, peut-être 10, peut-être 20. Bah, si on fait un combat de boxe, voilà, nous, on les fait ensemble, peut-être moi, je vais perdre 100%. Je vais être juste dans la boxe, je suis capable de rien faire d'autre. Là, j'ai perdu 100%. Et pourtant, je peux être assis derrière mon ordi, dans mon appart, tout est calme. Donc, je vais me dire, bon, voilà, là, je me concentre, je suis à 100% sur mon travail, et finalement, non. Parce que si mon corps est dans un état de stress, le système nerveux est activé un sympathique, mon cœur bat fort, j'ai de l'adrénaline, du cortisol dans les corps, et tout, peut-être que je suis en train de perdre 10%, juste parce que je respire de façon superficielle, par la bouche, et je ne le sais pas. Donc, et pas qu'en termes cognitifs, hein, aussi en termes d'énergie, parce qu'on devient une petite passoire, on va s'épuiser. Donc, on veut beaucoup mettre d'énergie dedans, mais en fait, la première chose à voir, c'est est-ce que ça fuit de partout? Ça, il faut le voir aussi. Alors, des fois, on peut pas changer certaines choses, donc ça continuera à fuir. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter l'entrée. C'est aussi possible. Mais sur des choses aussi simples que notre respiration au quotidien, ça serait dommage de ne pas voir les fuites. Et là, je vous dis, bah, les travails sous la respiration fonctionnelle, ça intéresse encore moins des gens. Par rapport à la performance physique, je vous disais, c'est négligé. Bah, alors là, la respiration fonctionnelle, ça intéresse personne, sauf les gens qui vont très mal, qui sont malades. Alors là, ils se questionnent, ok, mes poumons sont malades, donc là, du coup, comment je respire? Mais là, c'est dans un cas pathologique. Si vous prenez une personne qui va bien, et vous demandez à cette personne, bah, est-ce que tu fais du travail pour garder ta respiration en bonne santé? Maintenant que tu vas bien, bah, pour l'instant, je pense qu'il y a peu de personnes qui te disent, bien sûr. Et c'est pour ça que justement j'ai créé l'Académie Inspire, j'ai formé des coachs en respiration, parce que s'il n'y a pas des personnes qui en parlent et enseignent, finalement ça va rester accessoire. Oui, la respiration est importante, oui, il y a des façons de respirer, mais finalement je ne suis pas un sportif de haut niveau, finalement je n'ai pas des gros objectifs, donc j'accepte ma mauvaise respiration.
Complètement. Et comme tu l'as très très bien dit, en fait, ça fait directement écho au principe de via negativa de Nassim Nicholas Taleb. Là, je m'adresse encore une fois à mon audience, donc plus des personnes qui sont dans un objectif de performance cognitive, avant de chercher à ajouter des logiciels, des méthodes, des accessoires, commencez par retirer ce qui ne marche pas, ce qui va mal, ce qui pose problème. Et là, une mauvaise respiration en fait partie. Parce qu'effectivement, si on met des surcouches sur du sable, au final, la stabilité ne sera jamais présente. Mais si on commence par solidifier le sable, par mettre des renforts, par le bétonner, par le cimenter, peu importe l'image que l'on prend, tout ce que l'on va mettre par-dessus aura un effet démultiplicateur. Alors que si on fait l'inverse, malheureusement, on masque un problème qui finira un jour ou l'autre par ressortir. Et en plus, ça reprend une métaphore que j'aime bien utiliser. Les personnes, effectivement, qui ne prennent pas soin de la respiration, du cerveau, des fonctions cognitives, de la digestion, bref, de tout ce qui est une approche, on va dire, plus santé au final, mais qui évidemment assoit également la productivité, sont des personnes qui, selon moi, pour mettre l'accent sur les outils avant toute chose, conduisent une Ferrari mais qu'un moteur de Twingo. Elles ont l'apparence d'un beau système. Elles ont les connaissances, elles ont les compétences, mais le moteur ne suivra jamais l'allure qu'elles veulent donner à leur fonction cognitive. D'où l'importance, encore une fois, de faire priorité, je pense, l'alimentation, le sommeil, le mouvement ou encore la respiration, comme tu le dis très bien.
Oui, peut-être une chose qui est importante aussi à comprendre, on pourrait dire que la respiration fait partie du mouvement, si vous voulez. Comme ça, on va pas... Parce que souvent, on fait un peu la distinction et du coup, bah moi, je suis sportif, et donc la respiration, je m'en occupe pas. Mais finalement, si on pensait la machine dans sa totalité, la respiration fait partie aussi du mouvement. Platon, dans son académie, la gymnastique, c'était mouvement, respiration, alimentation. Ça veut dire un gymnaste, un grec qui faisait les Jeux Olympiques il y a 2500 ans et qui les gagnait. Et ben, c'était quelqu'un qui, bien sûr, cultivait son corps avec la technique aussi, s'il faisait du combat, de la course, mais qui faisait attention aussi à sa nutrition. Et il faisait aussi attention à sa respiration. Et ça, c'est voilà. Donc, il faut peut-être la mettre dedans. Voilà. Ou alors, on s'est dit, non, moi, je les néglige. Et si tu veux continuer l'analogie de la Ferrari, moi, je donne plutôt l'analogie de, tu as une super voiture, mais tu la conduis en première. Tu n'as pas changé de vitesse. Bah, tu veux, ok. Bah, en première, tu as toujours une super voiture. Mais tu fais pas grand chose.
Et Platon, c'est assez drôle que tu le mentionnes parce que Platon, peu de personnes le savent, mais c'est un surnom qui veut dire épaule large. Et en fait, aujourd'hui, malheureusement, c'est un gros boxeur, il pratiquait le pilates aussi à l'époque. Et malheureusement, depuis quelques temps, on a décorrélé le corps et l'esprit. Avec cette fameuse phrase qui dit, en fait, tout dans les muscles, rien dans la tête. Et inversement, quand on se représente une personne qui est sachante, quand on se représente un physicien, un doctorant ou autre, souvent, on a une personne qui est assez maigre, assez faible, assez introvertie. Alors qu'au final, effectivement, le corps assoit la puissance de l'esprit et la puissance de l'esprit assoit la puissance du corps. C'est un tout, c'est une vision qui est holistique et qu'il faut rétablir, je pense, aujourd'hui. Et il est dommage, encore une fois, de s'enfermer dans ces dogmes de dire, ok, faire du sport, c'est pour les personnes qui n'ont pas, on va dire, de capacité cognitive, qui n'ont pas d'ambition cognitive, qui n'ont pas réellement de capacité de réflexion. Et inversement, faire du sport pour une intelligence, c'est une perte de temps. Non, tout ce qu'on fait pour sa santé, à soi le mental. Tout ce qu'on fait pour le mental, à soi également la santé et le physique. Donc merci pour ce rappel de Platon qui donne une très très belle leçon à tous nos préjugés, on va dire. Et maintenant, si on rentre dans le détail, on va dire davantage physiologique, comment est-ce qu'on peut expliquer que par une simple respiration, on va dire, on a vu avec la notion de système nerveux, on peut induire effectivement une meilleure concentration, une plus grande motivation. Au niveau vraiment des neurotransmetteurs, comment ça se passe? Au niveau des molécules, au niveau des hormones, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la chimie interne du corps humain, pour qu'à nouveau, le simple fait d'expirer et d'inspirer correctement, et on reparlera encore une fois après de la bouche versus le nez, induisent de telles réactions si puissantes en si peu de temps, comme tu l'as dit.
Alors déjà, on pourrait expliquer quelque chose qui n'est pas évident, c'est que la respiration est multidimensionnelle. Ça veut dire qu'elle va agir sur les corps de plusieurs façons. Déjà, si on prend une approche physiologique, concrète, scientifique, simple, il y a trois dimensions. La dimension biochimique, donc tout ce qui concerne les gaz, l'échange gazeux, dans les corps, à l'intérieur du corps. La dimension biomécanique, tout ce qui concerne les pressions, les fluides et les muscles, les mouvements, à l'intérieur du corps. Et la dimension psychophysiologique, tout ce qui concerne les systèmes nerveux, autonomes, périphériques, mais aussi centrales. Et il y a bien sûr un lien avec les neurotransmetteurs dans ces côtés-là, ou alors les hormones dans les côtés chimiques, parce que en fait des fois on les appelle hormones, des fois neurotransmetteurs, en fonction de là où ils sont. S'ils sont dans les cerveaux, c'est les neurotransmetteurs. S'ils sont dans les sangs, c'est les hormones. Ça aussi, des fois on ne le sait pas, mais c'est la même molécule. Et donc il y a déjà trois dimensions. Donc on peut déjà comprendre qui est, il y a plusieurs actions qui vont apparaître en fonction de la technique de respiration qu'on a mis en place. Il y a certaines techniques de respiration qui vont agir sur tous les trois niveaux en même temps. Il y a d'autres qui vont agir principalement sur un niveau ou d'autres. Donc ça aussi, il faut les comprendre. Il n'y a pas toutes les techniques qui vont agir sur toutes les dimensions et surtout pas de la même façon. Une chose déjà simple à comprendre, c'est que quand on respire, on va impacter la ventilation dans les poumons et donc, par ces biais, la chimie du sang. On peut changer la chimie du sang de plusieurs façons. Par exemple, on peut la rendre alcaline. Ça peut être bien, ça peut être pas bien, ça dépend. On peut la rendre acide. Ça peut être bien ou pas bien, là pareil, ça dépend hein, des objectifs, du contexte. On peut faire sortir des toxines par les poumons du sang, comme l'alcool, donc par exemple, mais d'autres.
Donc, les poumons sont un émonctoire également.
Voilà, c'est un émonctoire un peu des deuxièmes émonctoires, mais c'est un émonctoire. Et si tout va bien, normalement, on ne devrait pas faire sortir des toxines des poumons, mais on peut les utiliser pour faire sortir des toxines. Donc c'est bien, ça nous aide. Et moi, j'ai eu un grand détox en faisant la respiration Wim Hof pendant la première année des pratiques. Et ça m'a beaucoup aidé, mais je savais pas. Et en fait, j'étais en train de faire sortir des toxines par cet émonctoire-là. Bon, c'est toute une histoire, effectivement. Donc ça nous permet par rapport à ça. Et après, dans les sangs, qui est bien sûr un fluide très important, mais c'est pas les seuls fluides du corps importants, et ben, une fois qu'on a changé la composition chimique du sang, il y aura des actions au niveau cellulaire, au niveau des tissus. Et c'est là où ça nous intéresse. Parce que finalement, la capacité à générer de l'énergie, capacité à réfléchir, la capacité à bouger, dépend de nos cellules. Ça dépend pas forcément de ce qu'il y en a dans les sangs tout de suite, même si ce qu'il y en a dans les sangs détermine comment les cellules fonctionnent. Et donc, si on a changé, par exemple, la concentration des CO2, donc des dioxydes de carbone, ou on a changé la concentration d'oxygène, bah, les cellules ne vont pas respirer de la même façon. On parle de respiration cellulaire. Et donc, ça va impacter la quantité d'oxygène disponible ou à l'intérieur de la cellule ou dans les mitochondries. Les mitochondries sont un peu les organelles à l'intérieur de la cellule qui produisent de l'énergie sous plusieurs formes, plusieurs filières, l'ATP, etc. Et c'est sûr que ces processus n'est pas les mêmes en présence ou en absence d'oxygène, ou alors avec des degrés de présence de cela. Et après, bien sûr, si la circulation du sang n'est pas là, ben, tout ça, c'est compliqué. C'est pour ça que les systèmes cardiovasculaires et respiratoires, cardio-respiratoires, du coup, sont intimement liés. Après, il y a l'aspect biomécanique. Et là, je simplifie. Il y a plein d'autres choses. Hein. Je simplifie. Après, on n'a pas parlé de l'effet Bohr,
Justement, j'ai une question par rapport à l'effet Bohr et la tolérance au CO2.
Voilà, on a parlé de plein de choses, l'oxyde nitrique, on n'a pas parlé des... Mais déjà, il y a un aspect chimique, puis il y a un aspect biomécanique. Les poumons, bah, ils ont un espace dans la cage thoracique. Donc, si on les remplit en bas, en haut, c'est pas la même chose. Si on les remplit à moitié, au 100%, c'est pas la même chose.
Donc, on peut segmenter la répartition des poumons aujourd'hui par une respiration consciente et maîtrisée.
On peut segmenter ça, mais on peut aussi l'optimiser. Donc, je veux respirer avec les trois lobes de mes poumons, en haut, en bas et au centre. Ou alors, je veux juste respirer avec les lobes inférieurs. Ou alors, je veux réduire les volumes morts. Ou alors, je veux augmenter la perfusion ventilatoire. Et ça se travaille en utilisant les muscles respiratoires. Les muscles respiratoires sont nombreux. Les diaphragmes, les principales, mais les intercostaux internes et externes. Il y a les trapèzes, il y a les scalènes, les sternocleidomastoïdiens. Bon, il y a des noms que même moi j'oublie des fois, mais il y a des tableaux si vous voulez voir tout ça, des physiologies respiratoires, ça vous montre qu'il y en a plein de muscles principaux et accessoires. Et si on utilise les diaphragmes ou les trapèzes pour respirer, c'est pas tout le même. Les résultats n'est pas les mêmes en termes de ce qui rentre et de ce qui va dans les sangs. Et donc ça, c'est l'aspect mécanique. Après, l'autre aspect mécanique qui est un lien aussi à la biochimie, c'est qu'on utilise les nez ou la bouche. Bah, c'est pas la même chose, en fait. C'est comme, vous pouvez aussi faire entrer l'air par d'autres endroits, hein, si ça vous intéresse, mais c'est différent de faire entrer l'air par les nez, par une narine, par deux narines, par la bouche, par les oreilles. Parce qu'il y a même il y a des liens, bien sûr, entre les oreilles, les sinus, la cavité nasale, donc la gorge, donc les poumons. Bon, je rigole, mais bien sûr que il y aura des différences parce que les structures utilisées sont pas les mêmes. Et après, l'aspect psychophysiologique, il y a un nerf vague, déjà, qui n'a pas la même position que d'autres nerfs. Et les nerfs du système nerveux sympathique et parasympathique ne sont pas connectés aux mêmes vertèbres. ne sont pas connectés aux mêmes organes de la même façon. Certains organes sont énervés par les deux, mais du coup, ils partent pas du même endroit. On va pas les solliciter de la même façon en respirant de façon différente. Donc, on peut avoir une action inhibitrice ou activatrice d'un certain organe. Par exemple, disons, la digestion, on peut la ralentir ou l'accélérer. Les systèmes immunitaires, on peut l'aider ou pas. Et c'est bien ou pas bien. Alors, c'est pas forcément bien de donner l'énergie au système immunitaire. Si vous êtes en train de vous battre contre quelqu'un, et ben là, vous voulez pas donner de l'énergie à votre système immunitaire. Je vous rassure, vous voulez tout dans les bras, dans les jambes. Vice versa, si vous êtes allongé dans votre lit et vous dormez la nuit, ça serait dommage de ne pas lui donner l'énergie dont il aurait besoin. Donc, voilà, et après, il y a, donc, les nerfs vagues, je vous disais, donc, du système parasympathique, les dixièmes nerfs crâniens, mais c'est pas les seuls importants. Il y a aussi, comment s'appelle l'autre nerf qui passe au niveau de la carotide jusqu'au diaphragme. J'oublie le nom là, mais du coup ça va activer par les mouvements du diaphragme des façons différentes de notre cerveau. Donc là c'est le système central qui va être impacté. Il y a bien sûr un lien avec les rythmes de notre respiration mécanique et les rythmes du cerveau.
Ce serait pas le muscle traite ce par hasard? Le muscle de traite dont tu parles, qui relie le duodénum au diaphragme.
Alors ça, c'est un muscle. Moi, j'ai pensé à un nerf.
Parce que je crois effectivement que c'est un nerf à qui on donne le nom de muscle, mais potentiellement que ce n'est pas ça.
Trigéminal, si je ne me trompe pas.
Ok, oui.
Bon, voilà. Après, il y a dans les cerveaux des structures qui sont alliées au rythme. Les Prebotzinger, on dit, les complexes Prebotzinger. Il y a la moelle épinière. Bon, il y a des récepteurs chimiques qui sont en lien avec le système nerveux, mais aussi à la chimie du sang. C'est assez complexe. Mais finalement, c'est pas forcément nécessaire de savoir tout ça parce que finalement, on va aller travailler par les pratiques respiratoires. Et de les savoir, ça va nous apporter très peu, finalement. Mais ce qui est important, c'est pas de les savoir, c'est d'être conscient de la pratique. Alors ça, c'est intéressant. Mais de savoir tout ça au niveau théorique, c'est finalement pour les gens qui s'intéressent plus à l'approfondissement des connaissances parce qu'ils veulent l'expliquer. Mais finalement, ce qui est très important, c'est la pratique et la conscience de la pratique. Voilà.
Déjà, merci pour ces précisions. On va revenir maintenant sur la différence entre le nez et la bouche que tu as encore évoqué là. Effectivement, la plupart des personnes, en tout cas, je crois que 55% des personnes, une stratégie de respiration par la bouche aujourd'hui. C'est des statistiques que j'ai vues par-ci par-là. Est-ce qu'elles sont vraiment effectivement confirmées? Je ne sais pas, mais c'est une tendance qu'on peut remarquer aussi en étant dans la rue. Quelles sont les implications d'une respiration buccale en lieu et place d'une respiration nasale?
Alors, dans la vie de tous les jours, nous avons les nez pour respirer, et si nous choisissons ou pas de les faire par la bouche, il y a des conséquences. Si on les fait de temps en temps, pas beaucoup de conséquences. Par exemple, si c'est une pratique ponctuelle, ce qu'on va voir comme conséquence, c'est qu'on va perdre de l'eau, on va perdre de l'hydratation, on va perdre de la température, on va généralement baisser notre taux de CO2, et on va baisser notre taux d'oxyde nitrique. Donc ce sont un peu généralement ce qui se passe dans un temps court si on respire par la bouche. Par exemple, moi et toi, Jérémy, en ces moments, en parlant, on est en train de respirer beaucoup par la bouche. Donc on va avoir ces effets pendant les temps du podcast. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Après, on va se faire une petite respiration katana, une petite respiration réduite. On rééquilibre notre biochimie, les nez va se dégager. On va boire, on est en train de boire tous les deux, parce qu'on sent qu'on se dessèche, parce qu'on est en train de perdre cette humidité en l'expirant par la bouche, et tout va bien se passer. Par contre, si on fait ça de façon chronique, tout le temps, il y aura des conséquences beaucoup plus marquées. Si on les fait à partir de notre enfance, ce qui était mon cas, malheureusement, quand j'étais enfant, parce que j'étais allergique, et j'étais allergique aussi parce que je respirais par la bouche, donc c'était un cercle vicieux, mais du coup, ça fait que quand j'étais petit, je commençais à respirer par la bouche. Cela va impacter les développements de la mâchoire, du crâne, même du cerveau, même de la posture, de la capacité à utiliser les diaphragmes, de la colonne, etc., etc. Ça peut avoir des conséquences assez néfastes qui peuvent être en partie compensées par d'autres bonnes choses qu'on fait. Moi, c'était la gymnastique artistique que je faisais tous les jours 3-4 heures, qui m'a, entre guillemets, un peu équilibré, même si je faisais cette respiration buccale. Mais d'autres enfants ne pourraient pas l'avoir. Et il va y avoir une dégénération beaucoup plus rapide de plein de choses. Donc ça peut engendrer, même au niveau des enfants, d'autres pathologies dégénératives, précoces. Alors ça ne va pas être la seule chose qui va faire ça. mais ça va augmenter ça. Donc, ce n'est pas la seule cause. Hein. Donc, si on le fait par la bouche, ça modifie la structure. Et aussi, dans les temps, ça va impacter le cœur, qui va donc être pénalisé dans son fonctionnement. Mmh. Ça va impacter l'oxygénation de nos cellules, qui vont être impactées, donc notre niveau d'énergie. Ça va impacter aussi, généralement, notre système nerveux autonome, qui va être plus en tendance excitation, stress.
Plus sympathique, du coup, parce que la respiration buccale induit une augmentation de la fréquence respiratoire. C'est-à-dire qu'on respire plus par minute. Ouais. Une respiration qui est plus régulière induit une stimulation sympathique. Là où une respiration qui est davantage lente, davantage prolongée, fait un travail plus au niveau du parasympathique.
Ouais.
Merci pour... je me suis permis la précision rapidement.
Ouais, c'est vrai, tout à fait. Et puis, il peut y avoir des conséquences un peu plus lourdes si cela continue pendant des années, des décennies, en âge adulte surtout, quand beaucoup d'autres choses commencent à fonctionner moins parce qu'on est un peu bouché de partout. Et il y a beaucoup de dégénérations qui commencent à arriver. Et donc, la respiration, si elle est toujours buccale, on peut voir des difficultés d'oxygénation cellulaire. Et quand l'oxygénation cellulaire manque, les fonctions cellulaires ne sont pas accomplies. Donc, et là, il peut y avoir beaucoup de maladies chroniques. Je ne vais pas les mentionner toutes, parce que j'aime pas, mais il peut y avoir vraiment des conséquences importantes sur la santé et l'hypertension artérielle chronique, l'ostéoporose, pour en citer alcune qui sont, voilà, on peut en parler plus facilement. Mais d'autres choses aussi un peu plus graves, et on pourrait dire, mais attends, je suis quand même en train de respirer. Les gens ne voient pas. Je respire, j'ai toujours l'air qui rentre dans mes poumons. Pourquoi je devrais avoir des soucis au niveau de mes cellules? Parce qu'en fait, entre vos poumons et vos cellules, il y a tout un monde encore. Et votre respiration buccale impacte justement tout ce qui se passe à partir du poumon, bien sûr, jusqu'à la cellule. Comme le fait aussi la respiration par les nez. Mais la respiration par les nez, ça l'est fait pour aider. Et la respiration par la bouche, malheureusement, elle n'est pas faite pour, dans la durée, accomplir toutes ces fonctions positives qui fait les nez. Donc elle n'est pas méchante, elle n'est pas proscrite. Elle est juste à éviter de façon chronique, ou alors à utiliser sagement à certains moments pour certains objectifs. Et je l'utilise, moi, à certains moments pour certains objectifs, la respiration par la bouche.
Tu parles d'ostéoporose, c'est en lien avec l'acidification du sang, je présume, du coup, qui crée une déminéralisation des os?
Oui, parce qu'en fait, alcalose respiratoire chronique, c'est qui perturbe l'équilibre tampon du sang et qui va donc pêcher d'aller
pour équilibrer.
Voilà, pour équilibrer. Donc c'est pas parce que le sang est plus acide, c'est parce que le sang est plus basique, mais pensez-vous à l'adaptation qu'il y a derrière. Mais pourtant basifier les sangs sur un temps court, ça peut être bien. Donc les gens peuvent être un peu perdus des fois par rapport au terme et par rapport à ce qui se passe, mais pensez toujours chronique versus aigu. Ça veut dire ponctuel versus tout le temps. C'est pas du tout les mêmes effets, la même chose, pas du tout la même si c'est tout le temps, si c'est ponctuel. Alors, des fois, c'est évident. Par exemple, un bain froid, c'est évident que tu vas te dire, je vais pas vivre 24 heures sur 24 dans un bain froid. C'est totalement débile et je vais mourir. Vous avez raison. Mais en fait, vous savez qu'un bain froid, c'est 1 à 2 minutes. Bon, voilà, okay, vous l'avez compris. La différence entre aigu et chronique. Pourtant, dans la respiration, on n'y pense pas. On dit, je respire comme ça. Oui, mais une fois, ça va. 2, 3 minutes, 5 minutes, c'est pas un problème. Mais tout le temps. Tout le temps, peut-être, c'est pas la même chose.
Il y a un livre sur ce sujet qui s'appelle Jaw, donc J-A-W, comme les mâchoires, du coup les dents de la mer, ça vient de là. Un livre américain qui, malheureusement, n'a pas percé en France, et j'ai l'impression qu'il parle effectivement de tous les problèmes, comme tu l'as dit, de la respiration buccale, et qui décrit la respiration buccale comme étant une pandémie mondiale aujourd'hui.
Oui, chronique, je répète.
Oui, chronique.
Comme ça,
tu as raison effectivement de préciser cette notion de chronicité.
Voilà, parce que des fois, on s'est dit, oula, ça va pas être si méchant que ça, respirer par la bouche. Non, ce n'est pas, mais si vous le faites tout le temps, c'est très méchant. Mais si vous le faites de temps en temps, il n'y a aucun souci. Mais il faut comprendre la différence et il faut comprendre pourquoi on les ferait aussi. Est-ce que c'est juste une habitude inconsciente qui est perpétuée dans les temps, et ça, c'est une pandémie, ou est-ce que c'est de temps en temps pour faire des choses? Ça peut même être bien. Et c'est pour ça que là, peut-être quelqu'un peut vous guider au début pour vous repérer dans tout ça.
Justement, j'ai une question à te poser avant de voir les bénéfices à l'inverse de la respiration nasale, parce que en plus, effectivement, de limiter les effets négatifs qu'on a vus, elle apporte des bénéfices supplémentaires en termes d'oxyde nitrique, comme tu as commencé à le mentionner, en termes également immunitaires, en termes de réchauffement de l'air et j'en passe. Peux-tu déjà, effectivement, Est-ce que tu as des protocoles, des solutions, des méthodes, des idées pour qu'une personne déjà puisse prendre conscience par elle-même qu'elle respire trop, entre guillemets, de façon buccale au détriment d'une respiration nasale? Parce que c'est effectivement le savoir, c'est une chose, mais vu que c'est un comportement qui est autonome, donc par nature inconscient, c'est compliqué réellement d'être vigilant à sa bonne respiration au quotidien. Donc, as-tu des astuces, des solutions, des méthodes que tu utilises toi, soit personnellement, du coup, pour effectivement pallier ce problème que tu as connu dans le passé, ou pour tes clients?
Oui, c'est vrai que, du coup, c'est inconscient, mais c'est aussi conscient. C'est qu'on a la chance que la respiration, elle est deux. On peut la laisser faire tout seul, mais on peut aussi la modifier. Mmh. La première chose passe par la connaissance du fait que la respiration par la bouche n'est pas conseillée. Donc, une fois déjà qu'on le sait, si ça nous intéresse, on peut le voir quand on le fait.
Mmh.
Donc ça, c'est la première chose. Il y a vraiment des mécanismes internes qui se mettent en place pour surveiller plus quelque chose qui est en erreur. Si quelqu'un te dit, écoute, quand tu te mets comme ça sur la chaise, c'est en erreur. Quand tu laisses tous les coups ton foie, quand tu vas les faire, des fois, tu vas te dire, ah, attention, je fais attention. Mmh. Si jamais personne te l'a dit, tu vas jamais faire attention. Donc c'est pareil sous la respi. Donc la première chose, c'est comprendre pourquoi il faut pas les faire. La deuxième chose, c'est de commencer à pratiquer des exercices de respiration par les nez. Comme ça, les bons cercles virtueux se mettent en place et dès que les cercles vicieux s'activent par mécanisme, habitude, involontaire, on peut les noter, on peut voir la différence. Puis on peut voir, par exemple, la solution du scotch sur la bouche. Moi, je conseille les scotch sur la bouche la nuit pour commencer à ne pas respirer par la bouche la nuit parce que c'est plus difficile parce qu'on dort. Mais en fait,
c'est scotch, c'est pas un scotch de chantier.
Non.
Au cas où, c'est un scotch médical hypoallergénique. Voilà.
C'est ça.
Je le précise parce que j'ai vu effectivement des gens qui se scotchaient ça avec des scotchs pas du tout adaptés. Et ce qui crée forcément au niveau de la peau quelques petites séquelles. Bref, désolé pour l'interruption.
Ils sont dans des démarches extrêmes.
C'est ça.
Non, c'est soit du myotape, c'est vraiment fait pour ça par l'Oxygen Advantage, ou soit c'est du micropore, des scotch. Voilà. C'est pas du scotch plastique, c'est plutôt un tissu déjà. Mm. Et ça permet de fermer la bouche. Après, il y a des structures aussi. Dans certains peuples utilisaient des tours de tête pour tenir les mentons. Mais après ça, c'est un, on peut pas ouvrir la bouche tout de suite. Donc s'il y a vraiment une émergence, là c'est plus compliqué.
Oui, c'est aussi plus intrusif par rapport au sommeil.
Voilà. Donc un petit scotch, c'est les choses la plus simple. Et dans les jours, on peut les mettre aussi pour observer qu'il y a peut-être finalement de temps en temps, on n'a pas l'habitude, mais on fait beaucoup de soupirs par la bouche, ou quand on fait les escaliers finalement on l'ouvre, ou alors quand on est devant la télé. Donc ça peut nous permettre de prendre conscience qu'on fait les choses différemment. On peut aussi les mettre en faisant du sport, pour essayer de respirer par les nez en faisant du sport, surtout sur des zones cardio plutôt basses pour commencer.
Mmh.
Et ça permet d'amener de la conscience à nez aux bouches. Après, le plus vous travaillez avec la respiration en général, le plus vous aurez tendance à prêter attention à comment vous respirez, la profondité, les rythmes, les nez à la bouche, à vous intéresser à tout ça, jusqu'à qu'un jour, vous pourrez faire plein de choses en même temps. Observer votre respiration, mais aussi faire plein d'autres choses en même temps. Ça veut dire que vous avez deux points de focus. Un en arrière, votre souffle, et un autre en avant, ou plusieurs autres en avant, en faisant plusieurs choses. Et ça va pas vous prendre de la concentration. Au contraire, ça va vous donner de la capacité d'attention. Et ça, c'est ce qui est aussi préconisé dans les disciplines assez anciennes, qui sont les yoga ou les arts martiaux, où on voit de façon assez générique et transversale, qui est un des objectifs du pratiquant, du yogi, de l'athlète, comme vous voulez l'appeler, du combattant, du guerrier, voilà. C'était de pouvoir observer le plus longtemps possible, le plus fréquemment possible, ou même tout le temps, sa respiration comme base de fond. Arriver à ne pas perdre une seule respiration. Ça nous intéresse pas forcément à ces niveaux là tout de suite à tout le monde, mais pas dans une démarche si poussée de la maîtrise de soi, mais c'est la piste qui a effectivement été donnée. Ça passait par l'observation de sa respiration.
Passionnant.
Donc là, c'est une piste intéressante parce que ça veut dire que depuis des milliers d'années, l'homme fait un travail en lien avec les souffles pour gagner en concentration, en présence, en calme, en maîtrise et en efficacité. Ça passe par cette conscience-là, cette maîtrise-là. Donc, les souffles n'est pas vraiment accessoire à tout ça. C'est beaucoup plus profond. Donc là, on donne des pistes plutôt concrètes, physiologiques pour le bien-être, mais ça peut nous porter aussi sur des démarches plus des développements des soi,
Plus spirituel.
Plus spirituel, si on veut. Voilà. Et ça passe effectivement par cette « Ah, comment je suis en train de respirer ?»
Passionnant. Vraiment passionnant et je te remercie. Pour compléter un peu tes recommandations pour prendre conscience d'une mauvaise respiration, ce que j'aime mettre en place, ce que j'aime recommander à mon niveau, c'est simplement d'investir dans les petites gommettes de couleur que l'on va mettre chez soi sur des points un peu stratégiques, par exemple sur son frigo, sur la porte des WC, sur la porte de sa chambre. Et dès que l'on croise une gommette, c'est un déclencheur pour prendre conscience de sa façon de respirer. Ok,
oui,
je la croise.
Bien.
Maintenant, du coup, j'ai un point, vraiment, j'ai un élément visuel qui me rappelle à l'ordre. Comment est-ce que tu respires? Prends le temps juste de te poser la question, est-ce que tu respires correctement, une respiration qui est davantage diaphragmatique, ou plus par les épaules, plus par la bouche, de façon trop saccadée, etc. Et ces rappels visuels, je pense, sont intéressants pour commencer, avant d'avoir vraiment ce réflexe de s'auto-analyser, de se méta-analyser au quotidien. Mais comme tu le dis, le mieux, c'est de s'en détacher par la suite. Et effectivement, je le ressens moi-même. Très souvent au volant, j'analyse quasiment inconsciemment ma respiration. Et je me rends compte que j'ai souvent une tendance, d'ailleurs, à avoir de longues rétentions à poumons vides. Et inconsciemment. Inconsciemment, je peux ne pas reprendre de respiration durant plusieurs secondes, mais c'est mon mode respiratoire par défaut. Et je sais le repérer maintenant. Et c'est intéressant de pouvoir vraiment le comprendre.
Ça, c'est bien.
De pouvoir s'auto-analyser.
Alors, je suis sûr que tu observes aussi ta posture.
Bien sûr,
par exemple,
bien sûr.
Comme tu es un sportif. Mais en fait, ce qui nous intéresse, on apprend à l'aimer et donc on apprend à l'observer. Si quelqu'un est passionné d'alimentation, bah il va observer ce qu'il va mettre dans sa bouche. Si quelqu'un est sportif, il va observer sa posture. Si quelqu'un fait des exercices de respiration, comment il respire. Mais en fait, on pourrait faire des points d'attention sur plein de choses et ça va pas nous prendre beaucoup de temps ou nous perdre. Au contraire, ça va beaucoup nous aider. Il y a un des coachs que j'ai formé dans mon académie de respiration. Il m'a dit, lui, il utilise une croix sur la main avec un stylo.
Okay.
Pour les gens qui font du sport, pour les rappeler en faisant du sport, quand ils voient la croix, de respirer bien par les nez, parce que des fois, on peut l'oublier. Voilà, c'est comme tu viens de dire, d'utiliser l'aspect visuel pour nous aider. Alors, j'ai rebondi sur ce que tu viens de dire. L'observation de la pose expiratoire. La pose expiratoire est naturelle dans les cycles respiratoires. Donc, c'est plutôt une bonne chose. C'est la pose inspiratoire qui n'existe pas dans la respiration naturelle. Donc ça, il faut, voilà, pour info, il faut pas éliminer ta pose expiratoire si elle vient naturellement parce qu'il fait partie du cycle. C'est même une bonne chose. Après, est-ce que ça vient naturellement parce que ta respiration est vraiment bonne à ces moments-là ou est-ce que elle vient pour équilibrer ton CO2 parce qu'avant t'as hyperventilé? Parce que c'est différent. Moi, j'observe par exemple que si je donne un cours, comme je suis en train de parler par la bouche, bah, je vais un peu en hyperventilation en fait. Et je baisse mon
CO2. Bien sûr.
Et du coup, je peux faire des apnées après très longues. Parce qu'en fait, je suis en train de me rééquilibrer. Donc, à ces moments-là, c'est bien toujours, mais la cause, elle est différente. Mais si toi, t'es tranquille et tu respires et tu vois que tu fais une pause expiratoire, il n'y a pas besoin de modifier ça, c'est une bonne chose.
Pour mon cas personnel, étant au volant, il n'y a pas d'hyperventilation avant l'observation.
Voilà.
Mais oui, très bien. Justement, on va enchaîner avec... Ah non, déjà, on a la respiration nasale. Juste après ça, on parlera de l'effet bord et de la tolérance au CO2. Si jamais ça te va. Donc effectivement, on a dépeint un portrait assez négatif par rapport à les respirations buccales, les contraintes qu'elles vont engendrer, les conséquences qu'elles vont engendrer. Quels sont maintenant les bénéfices, les intérêts d'une bonne respiration nasale? À nouveau, on a parlé un peu d'oxyde citrique par-ci par-là. On a parlé nitrique. Ça n'a rien à voir. Également, on a parlé un tout petit peu de système immunitaire. Est-ce que tu peux du coup essayer de brosser un portrait vraiment des bénéfices de la respiration nasale aujourd'hui?
Oui. Alors, j'ai un de mes élèves qui est chimiste et il me dit toujours « monoxyde d'azote, monoxyde d'azote ». Alors, quand on parle d'oxyde nitrique, effectivement, on devrait en français dire « monoxyde d'azote » parce qu'il y a en anglais « nitric oxide ». Et bah voilà, ça passe, mais en français un peu moins. Donc, pour être puriste, dit c'est la même molécule.
Donc, monoxyde d'azote, peux-tu nous en parler?
Voilà. Et elle est produite principalement dans les sinus, au niveau de la cavité nasale, dans les membranes des sinus. Principalement, les sinus qui sont vraiment devant ici dans le visage. Je sais pas si on est en vidéo aussi ou juste.
On est vidéo et audio, oui.
Voilà, ici, parce qu'il y a plusieurs types de sinus. Il y a ici, ici et plus derrière, sous les côtés. Sinus, c'est des cavités. Ils ont plusieurs rôles, notamment un de la production d'oxyde nitrique, même pas que, parce que l'oxyde nitrique est produit aussi dans d'autres endroits de la muqueuse. Mais dès la cavité nasale, pas dans la bouche, pas dans la gorge. Donc, si on bypass les nez, on bypass la production naturelle au niveau de nos voies respiratoires, d'oxyde nitrique. Et donc, on bypasse la production d'un gaz qui est vasodilatateur. Donc, ça nous aide à respirer. Ce qui est vasodilatateur au niveau des voies respiratoires. Je sais pas pourquoi, mais certaines personnes, ils ont pu faire la confusion entre la vasodilatation des vaisseaux sanguins et la vasodilatation des voies respiratoires.
Je la faisais à une époque. Oui, je la faisais à une époque aussi, oui.
Mais en fait, là, on parle vraiment au niveau des voies respiratoires. Et c'est toujours des vaisseaux. Mais c'est des conduits d'air et pas des sangs. Donc, on parle des vasodilatations des voies respiratoires, du nez, qui en fait partie, c'est un peu en cavité, jusqu'aux bronches et puis jusqu'aux alvéoles. Et puis, ces gaz, il est aussi antiviral, antibactérien, antifongique, et finalement, donc, protège les voies respiratoires en mettant en place une première barrière au niveau du système immunitaire, qui a trois barrières. La première barrière est celle de ne pas faire entrer et proliférer les bactéries, les virus, aux endroits où ils ne doivent pas le faire. Ça, c'est un des rôles. Et donc, on les perd si on respire par la bouche, ce qui est fort dommage. Alors, si c'est quelques minutes, vous inquiétez pas. Si c'est quelques heures, déjà, je peux pas vous dire que c'est nôtre. Et si c'est quelques jours, bah là, c'est sûr que c'est pas nôtre. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que, en respirant par les nez, vous filtrez l'air qui rentre. Donc, déjà, ça aussi, c'est un filtre. Donc, il n'y a pas les mêmes choses qui rentrent. Donc, ça protège pour ne pas faire rentrer ce qui doit pas rentrer au niveau des alvéoles. Parce que notre nez a des capacités d'auto-nettoyage qui sont moindres au niveau des alvéoles, même s'il y a quand même des capacités de nettoyage avec les mucus qui remontent, etc. Mais les nez inspirent, ça filtre, expire, ça nettoie. Et puis on peut s'émoucher. S'émoucher au niveau des poumons, c'est plus compliqué.
Le nez a deux barrières, effectivement, les poils d'une part, une barrière donc physique, qui empêche, on va dire, la pénétration, peu importe, des grosses molécules, ça peut être de la poussière ou autre, et une barrière chimique qui est davantage la morve aussi, qui est là pour capturer aussi ce que les poils ont laissé passer. Effectivement, et la bouche ne présente pas ça aujourd'hui. Donc tout ce que l'on filtre par le nez n'est pas filtré par la bouche.
Ouais, très bien. Donc ça filtre au niveau des particules et ça permet aussi une thermorégulation. Et ça, c'est très intéressant. Parce que nos poumons, ils ont une température intérieure au corps proche à 37. Et les alvéoles ont besoin d'être protégées au niveau température par les stress de la température. Parce que c'est de l'air extrêmement froid et sec touche la membrane alvéolaire, bah, c'est fragile. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire de l'inflammation, de l'irritation. Ça peut même générer l'asthme ou l'asthme d'effort. C'est pour ça que beaucoup des sportifs font de l'asthme d'effort. Parce qu'ils respirent par la bouche. S'ils respiraient par les nez, ils feraient pas. Mais ils ne savent pas. Parce que pour l'instant, on n'en parle pas assez. Et donc, ça filtre l'air, ça la réchauffe, généralement, ou ça la rafroidit, si vous êtes dans un sauna. Et ça permet de garder aussi l'humidité de cet air. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas perdre en expiration l'eau qui est contenue dans l'air. Et 42% d'eau qui en perd en plus si on respire par la bouche.
C'est énorme.
Bah, c'est énorme. Là, j'ai soif tout le temps quand je suis en train de parler avec toi. Que dans la journée, mais c'est rare que j'ai soif comme ça. Donc je m'hydrate, ce qui est bien. Donc si vous avez soif, quand vous parlez, c'est normal, hydratez-vous. Et puis sûrement j'ai oublié d'autres choses, comme par exemple bah, la quantité de CO2 finalement qui est dans les sangs, qui est la même que celle qui est dans les poumons, pour tout un tas de raisons. Et si on respire par les nez, généralement il y a plus de CO2, ce qui est utile. Ça veut dire pas plus trop, juste plus utile, plus bon. Et c'est justement un lien avec l'effet Bohr, c'est qui permet de mieux s'oxygéner finalement. Donc si on respire par les nez, après cette petite friction qui augmente quand on passe par les nez, ça permet d'engager une respiration plus profonde, donc plus lente, donc plus efficace. Donc ça permet d'être plus un parasympathique. Donc non seulement on s'oxygène mieux, on protège nos voies respiratoires, etc., etc., mais on est plus calme et détendu aussi en respirant par les nez. Donc si vous voulez travailler et être efficace, n'est pas à vous épuiser, c'est beaucoup plus intéressant de les faire en respirant par les nez, par exemple. Ça n'a aucun sens de les faire par la bouche.
Vraiment, vraiment pertinent et intéressant. Tu parles de l'effet Bohr. Tu parles de CO2. C'est le moment où jamais d'en parler, je pense, justement, d'embrayer dessus. Le CO2, aujourd'hui, quand on parle d'une personne, on va dire, qui n'est pas sachante par rapport à ça, malheureusement, par un manque de communication, par un manque de cascade des informations, elle voit le CO2 comme étant quelque chose de négatif. Souvent, on a, entre guillemets, peur du CO2. On se dit, ok, c'est pas bon, il faut le rejeter rapidement du corps parce que c'est un élément qui est presque comme un polluant en quelque sorte. Alors que l'effet Bohr nous fait comprendre que c'est tout l'inverse. Que le CO2 est davantage une clé qu'un effet polluant. Est-ce que tu peux en parler maintenant précis un peu de changer cette mauvaise perception du CO2 aujourd'hui, pour le réhabiliter en quelque sorte. Et pourquoi il est important également, on en parlera juste après, d'augmenter sa tolérance au CO2. Donc non pas sa capacité à l'évacuer rapidement, mais à le stocker davantage dans son corps.
Mmh. Oui, alors le CO2 c'est un gaz, donc dioxyde de carbone ou anhydride carbonique, comme ça on comprend CO2. Et il est important qu'il soit présent en une certaine concentration dans le sang pour que l'hémoglobine, donc dans les globules rouges, hein, vraiment, pour que l'hémoglobine qui transporte l'oxygène puisse relâcher au tissu l'oxygène. Et ça, c'est un processus intelligent des décharges d'oxygène à l'endroit du corps qui a besoin d'oxygène. C'est, en fait, c'est le mécanisme que le corps a mis en place pour faire descendre du train les molécules d'oxygène à la bonne, au bon arrêt. Et le bon arrêt, c'est là où les muscles ils sont en train de l'utiliser. Alors après, si on est au repos, voilà, c'est fait justement par la tolérance au CO2 générique. Mais si on est en mouvement, par les mouvements du corps, du muscle, eh ben, il y a plus de CO2, donc à cet endroit-là, il y aura plus d'oxygénation. Donc c'est un effet qui est mis en place pour permettre les mouvements et permettre la vie. Donc si dans la vie de tous les jours, vous hyperventilez de façon chronique, il y a moins de CO2, donc il y a moins de décharges de la part de l'hémoglobine d'oxygène, ce qui fait que votre oxygène est lié, il est volé par l'hémoglobine qui les lâche pas. Donc les cellules, ils ont pas assez d'oxygène. Donc ils sont en hypo-oxygénation, mais votre sang, il est oxygéné. Donc en fait, là, vous êtes mal. Ça veut dire que les cellules, elles peuvent pas prendre l'oxygène, mais l'oxygène, il est dans les sangs. Donc vous pouvez rien faire si ce n'est que commencer à ralentir, respirer moins. Et là, c'est contre-intuitif. Vous dites, oh, attends, pour avoir de l'oxygène aux cellules, là, tu me dis, respirez-moi. Et oui, dans les cas où on a trop respiré, pour retrouver l'oxygénation cellulaire, il faut respirer moins. Si vous avez, vice versa, fait des longues apnées, vous aurez suffisamment de CO2, ou même trop, donc là, vous allez respirer plus. Donc ça s'agit toujours d'avoir un équilibre biochimique. Mais les CO2 a un rôle, il est ni bon ni mauvais. Vous avez trop de CO2, c'est pas bon. Vous avez pas assez de CO2, c'est pas bon. Il faut avoir les justes quantités. Mais l'oxygène, c'est pareil. Vous avez trop d'oxygène, c'est pas bon non plus. Il faut voir pas assez, c'est pas bon non plus. Donc il faut avoir des pressions partielles d'oxygène et de CO2 dans les sangs, dans des ranges normaux au repos. Quand on fait de l'exercice physique, pour être performant et adaptable et résilient, ça serait cool que nos plages de tolérance soient les plus larges possibles. Mmh. Pour être des individus résilients. Mais bon, si vous êtes pas des grands sportifs, vous pourrez vous dire que c'est déjà suffisant juste d'avoir de la normalité au repos. Et donc ça, malheureusement, on peut pas l'apprendre d'autre façon qu'en faisant des exercices de respiration. Il n'y a pas d'autres outils, des pilules ou des manipulations manuelles de l'ostéopathe ou du médecin qui peuvent vous permettre. Voilà, vous devez l'apprendre vous-même par des exercices de respiration. Et après, il y a des outils qui peuvent vous aider sur cette démarche-là en faisant de l'hypoventilation, de la recirculation du CO2, comme béquille, mmh, mais pas comme base. Donc ça, c'est pour vous expliquer cet effet bord de façon hyper simple, pour vous dire que s'il n'y a pas de CO2, l'hémoglobine, il s'attache à l'oxygène, cet oxygène, il n'arrivera pas à la cellule, donc dans la mitochondrie, et donc finalement, vous n'êtes pas bien oxygéné au niveau des cellules, même si votre sang est plein d'oxygène. Donc là, tout l'intérêt de pouvoir tolérer les CO2. Parce que si vous ne les tolérez pas, il n'y aura pas beaucoup. Donc, l'hémoglobine va se garder l'oxygène. Donc, c'est la normocapnie qui nous intéresse. Après, de travailler avec des exercices avec plus de CO2 de façon volontaire sur un temps court, de façon intermittente. Et ça, c'est important de comprendre la différence entre chronique et aiguë. Donc, entre tout le temps et intermittent. De faire de l'hypercapnie, c'est intéressant. De faire de l'hypercapnie trop longtemps, c'est pas intéressant. Parce que c'est acidifiant et ça fait mal à la tête. Donc là, vous pouvez voilà, même aller trop loin. Et je l'ai fait, plein de gens que je connais, ils ont fait des exercices hypercapniques trop poussés. Alors, c'est pas la fin du monde. Mais c'est comme faire un entraînement physique trop exigeant par rapport à notre niveau musculaire. C'est juste ça. Donc, voilà, la normocapnie, la norme, ça veut dire normale quantité de CO2, c'est ce qui nous intéresse. L'hypercapnie, ce sont des entraînements. L'hypocapnie, ça veut dire plus de CO2. Et l'hypocapnie, ça veut dire moins de CO2. Ça nous intéresse aussi des fois, si on veut faire certaines choses, mais c'est lié à l'hyperventilation. Donc si c'est chronique, ça nous intéresse pas. si c'est ponctuel, ça peut nous intéresser. Dans la méthode Wim Hof, vous avez une notion d'hyperventilation intermittente, donc d'hypocapnie intermittente, et un peu moins des normocapnies ou d'hypercapnie, sauf si on va pousser dans les apnées, qui n'est pas l'objectif. Donc généralement, on n'a pas ça. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir équilibrer des pratiques respiratoires avec d'autres, notamment la méthode Wim Hof. Un exemple clair, c'est l'Oxygen Advantage. Et c'est pour ça que moi, je me suis formé comme instructeur Oxygen Advantage après. Mais après, il y a plein d'autres techniques qui peuvent les faire. Et sans rentrer dans les détails, il s'agit souvent de respirer plus lentement et un peu moins d'air.
Donc, tu conseilles aux personnes qui veulent travailler leur tolérance au CO2 de commencer par respirer plus lentement avant de chercher davantage à faire de la rétention.
Oui, moi,
le premier pas serait celui-ci déjà.
Moi, je conseille ça parce que c'est plus... C'est plus naturel d'apprendre à respirer lentement pour son quotidien qu'apprendre à arrêter de respirer. Mais les apnées sont utiles aussi. Mais c'est dans un deuxième temps. C'est un peu plus difficile. C'est un peu plus exigeant. Et finalement, si quelqu'un respire très mal, tu vas pas tout de suite lui apprendre à arrêter sa respiration. Tu vas plutôt lui apprendre à respirer correctement. Et puis, à faire les apnées. Et après, moi, récemment, j'ai développé aussi Et ça, c'est encore en cours de validation, mais j'ai échangé avec Patrick McEwen, qui m'a dit c'est une hypothèse intéressante, mais il n'y a pas des études scientifiques sur ça. C'est que, en fait, nous, ce que nous voulons, c'est de déplacer notre plage de tolérance normale des CO2 un peu plus haut. Donc, si on parle d'un millimètre de mercure, si on est à 35, on est un peu bas, on aimerait être à 40. Donc, on va faire des exercices avec une petite hypoventilation. Donc, on respire un peu moins pour avoir un peu plus de CO2 et habituer le corps à faire un shift vers les hauts, de ce qui est normal pour lui. Mais en fait, on peut aussi aller très loin dans l'hypercapnie et faire des apnées hyper fortes et avoir, au lieu des 40 mm de mercure, 50, 55, 60. Et là, on va pas peut-être faire un shift de ce qui est normal, mais on va élargir la plage maximale des tolérances. Qui n'est pas la même chose. Parce que ça veut dire qu'on pourrait être dans un plage normal de tolérance basse par rapport à la moyenne, mais d'être capable de tolérer des extrêmes. Et c'est pas la même chose. Vous voyez la différence? Donc, ça, il n'y a pas d'études scientifiques à l'époque, aujourd'hui, par rapport à cette hypothèse que je me suis fait, parce que j'ai travaillé beaucoup sur ça avec des exercices très différents et j'ai observé des choses dans ces sens-là sur mon corps. Et donc, j'ai partagé ça avec Patrick McEwen et il m'a dit, c'est possible, mais on n'a pas aucune étude qui peut nous dire que c'est vrai. Donc, pour l'instant, ça reste juste quelque chose que je partage ici avec vous aujourd'hui. Donc, faire des très longues apnées n'est pas, à mon avis, la même chose sur la tolérance au CO2 qu'apprendre à respirer moins. Donc, ça, c'est ce que je pense. Après, les deux sont utiles. Et si vous êtes des très bons sportifs, vous avez l'intérêt pour gérer votre essoufflement à tolérer plus de CO2 aussi sur des plages hautes, pas seulement au repos. Donc ça peut être intéressant à ce moment-là d'utiliser aussi les apnées. Mais vous avez aussi tout l'intérêt à être capable à évacuer très rapidement le CO2. Parce que si vous êtes capable de faire ça, vous pouvez augmenter l'intensité des productions de CO2 sans subir l'essoufflement qui va avec. Donc vous devez être capable aussi d'hyperventiler. C'est pour ça que l'entraînement respiratoire doit être 360 degrés. Et c'est pour ça que moi, j'ai développé une méthode d'entraînement respiratoire avec Inspire qui est 360 degrés, chose qu'on ne trouve pas ni dans l'Oxygen Advantage, ni dans la méthode Wim Hof, ni dans les pranayama d'aujourd'hui, mais qu'on retrouve dans les pranayama très anciens, qui est infaisable, vraiment trop difficile aujourd'hui, donc personne ne le fait. C'est vraiment... Il y a une personne qui l'est fait en Australie, et franchement, même moi, quand je l'ai fait quelques jours après, je lâche parce que c'est trop exigeant. Donc, j'ai développé une autre façon de travailler qui est plus ludique, si tu veux. Si tu as lu les deuxièmes livres, tu as vu un peu les concepts des WOD, sur la respiration, les exercices, etc. Donc, c'est une approche 360 degrés de la respiration qui est nécessaire. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure de l'autre, il n'y a pas une technique, il n'y a pas un protocole. C'est nécessaire de les faire 360 degrés.
Intéressant.
Comme dans les corps physiques. C'est comme dans les corps.
Bien sûr.
Voilà.
Du coup, effectivement, on est vraiment sur un podcast qui prône une démarche holistique des choses. Donc tes propos résonnent forcément avec moi et avec mon audience. On est 100% d'accord et 100% aligné. Effectivement, penser que l'individu est simplement une suite de morceaux qui ne sont pas liés les uns aux autres et tu veux vraiment un mode de pensée qui est vain, qui ne fonctionne pas. On est un ensemble, donc pour faire fonctionner un ensemble, il faut une théorie de l'ensemble derrière. Du moins, c'est ma façon de parler et de comprendre les choses à l'heure actuelle. On touche bientôt à la fin. Avant de voir justement ta méthode, sur quoi également on peut, on va dire, renvoyer les personnes qui écoutent ce podcast, où on commence effectivement à travailler avec toi, peux-tu déjà donner quelques petites astuces pour commencer à pratiquer la respiration? Parce que comme tu le sais très bien, le plus compliqué, c'est comme pour le sport, comme pour le fait d'arrêter de fumer, comme pour un régime alimentaire ou autre, c'est le premier pas. Il faut pas qu'il soit trop simple, sinon on se dit on le fera jamais, ni trop compliqué sinon la barrière est trop compliquée. Justement, elle est trop difficile à franchir. Donc quelles seraient les premières recommandations que tu donnerais à une personne qui débute de zéro, qui vraiment s'intéresse à la respiration, à ton travail, après l'échange qu'on a eu ensemble, pour commencer à déjà à comprendre ce qu'est la respiration et également en voir les bénéfices pour que son cerveau se dise « Ok, là, il y a un truc intéressant, il faut que je persévère pour en tirer encore plus de bénéfices à l'avenir. »
Alors moi, je vous partage une voie qui est possible, qui a été celle avec laquelle moi, j'ai découvert la respiration, et c'est pratiquer la respiration Wim Hof. Pas parce que c'est la technique qui va vous éduquer à tout, mais parce que vous allez voir que la respiration apporte des choses. Ça va pas vous laisser indifférent. Et donc, ça va vous donner envie d'en savoir plus et peut-être de pratiquer. Donc, moi, je vous invite à vous faire une respiration Wim Hof. Vous prenez un matin ou un fin de soir, un fin d'après-midi ou un soir, quand vous avez 20 minutes, vous prenez une vidéo que j'ai fait sur YouTube des respirations Wim Hof guidées. Moi, je vous conseille de prendre celle pour débutants, pour commencer. Et vous la faites et vous allez voir que ça va pas vous laisser indifférent, et généralement ça fait du bien, et ça va vous donner un peu du goût à qu'est-ce qui est le monde de la respiration, en sachant que par contre c'est juste une technique, il y a plein d'autres choses. Et ça, c'est pour commencer, ça peut pour vous donner envie. Une action concrète, au contraire, pas forcément pour vous donner envie, mais pour commencer à travailler dans le bon sens, c'est celui de commencer à respirer par les nez tout le temps quand vous y pensez. Et pour l'instant, exception faite pour vos séances sportives, parce que pour cela, il faudrait que je vous explique un peu d'autres choses, de trois outils pour commencer à les faire, et ça serait un peu, pour certains, difficile de les faire tout de suite comme ça, donc vous me dites, non, c'est pas possible, je laisse tomber. Mais dans la vie de tous les jours, en voiture, derrière l'ordi, derrière la télé, assis, en marchant, dans la rue, en faisant les escaliers peut-être, essayez de respirer par les nez le plus possible. Ça, c'est une action concrète déjà, qui n'est pas rien. Je vais pas vous dire respirer avec les diaphragmes, ralentissez les rythmes parce que ça va rien vous dire si vous avez pas déjà une démarche respiratoire. Si votre nez est bouché, vous pouvez faire cette technique là qu'on peut faire ensemble là, qui est hyper rapide, où vous inspirez, vous expirez tranquillement par les nez, vous mettez un apnée en hochant la tête le plus longtemps possible, et quand vous sentez que vous avez besoin de respirer, vous respirez lentement par les nez, et déjà vous allez voir que petit à petit il va s'ouvrir. À ce moment-là, ça va être plus simple de respirer par les nez, comme je vous dis, le plus possible dans la journée. Après, voilà. Là, on n'a pas beaucoup pratiqué ensemble, donc on a plutôt échangé. Mais effectivement, la meilleure façon de commencer à intégrer la respiration dans sa vie, c'est de faire des techniques guidées. Donc, si cela vous intéresse, pareil, il y a d'autres exercices sur la chaîne YouTube Inspire Potential, et vous pouvez vous faire 5 minutes de respirer par ici, 5 minutes de respirer par là. Je vous donne juste une chose que je vois souvent arriver comme un écueil, qui est faire la cohérence cardiaque. Dans les sens où souvent les gens me disent, mais moi je fais de la cohérence cardiaque, donc je suis bon, j'ai rien d'autre à faire sous la respiration. Donc, ne commencez pas par la cohérence cardiaque, sinon vous pensez avoir tout fait dans le monde de la respiration. Je vous dis juste ça parce que c'est souvent un écueil, parce qu'en faisant une chose bien, par contre, on pense avoir tout fait. Parce que ça a été divinisé, cette technique. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, je vous conseille de faire plein d'autres techniques. Comme ça, vous vous dites, je suis à rien. Je dois faire encore plein de choses. Parce que souvent, quand les gens me disent, moi, je fais de la cohérence cardiaque, c'est comme s'il y avait plus rien à apprendre. C'est au niveau de la respi. Mais c'est pas du tout le cas. Mais c'est une bonne technique. Hein. C'est une bonne technique. Je dis pas le contraire.
Mais et pas coup, suffisante en tant que soi. Ok.
Non. Pas du tout suffisante. Mais c'est bonne. Elle est bonne. Mais elle est pas suffisante. Mais comme la respiration Wim Hof, mais je vous l'ai dit, et comme la respiration Wim Hof n'a pas été divinisée, personne ne penserait qu'en faisant juste la respiration Wim Hof, il a appris à respirer. Ça va?
Ce que dit et partage Léo est très profond, notamment sur la notion de commencer par suivre des vidéos, par suivre des protocoles avant de s'en affranchir. Effectivement, au début, il faut respecter les règles avant de contourner les règles. Et souvent, on va un peu trop vite en besogne. On cherche justement à s'approprier, à tester par soi-même. Non, au début, juste, on n'est pas le sachant. On écoute les protocoles, on voit, on se dirige vers ce qui a fait ses preuves. Et une fois qu'on commence à être à l'aise, une fois qu'on commence à prendre du plaisir aussi, à comprendre ce que l'on fait, à comprendre les possibilités qui s'offrent à nous, là, on peut laisser un peu sa créativité s'exprimer. Ok, si là, je mettais d'un coup, ok, un peu de rétention à poumon vide. Un peu de rétention à poumon plein. Et si je le faisais en marchant cette fois-ci? Pourquoi pas, comme tu l'as dit, dans un escalier aussi. Mais au début, effectivement, il faut commencer par comprendre les règles, par respecter les règles, avant de chercher à s'amuser.
Ouais, non, tout à fait. Tu as totalement raison. Il faut aussi un peu s'amuser à un certain moment. C'est bien aussi de commencer par des protocoles pour savoir un peu où on va.
Mmh. Même pour s'évaluer aussi, mine de rien.
Mmh. Oui, j'ai développé des tests, justement, j'en ai développé 12, mais il peut y en avoir d'autres pour évaluer son efficacité respiratoire.
Super. Est-ce que ces tests sont sur ta chaîne à l'heure actuelle?
Alors, sur ma chaîne, je n'ai mis au moins 3. Et okay. Après, vous les trouvez dans mes livres d'Exuvi ou alors dans mes formations en ligne de respiration, si ça vous intéresse.
Voilà. Ça marche. Je tâcherai de mettre la main dessus pour la fiche action liée à cet épisode.
Ok.
Donc là, on arrive à la fin. Léo, déjà, merci pour ton temps. Maintenant, une personne qui se dit « Ok, là, franchement, ce qu'il me dit, ça me parle. Je sens que c'est l'outil qu'il me faut à l'instant T. Il faut que je puisse apprendre à respirer. Je veux travailler avec Léo. Comment ça se passe ? Est-ce que tu donnes uniquement des cours en présentiel ? Est-ce que tu as, entre guillemets, je sais que la réponse est non, mais que tes livres ? Est-ce que tu as des cours aussi en distanciel ? Comment ça se passe ?
Il y a plusieurs portes. Donc là, il y a la porte des stages, des retraites. Mm-hmm. Il y a des stages qui vont d'une demi-journée jusqu'à une semaine. Donc là, vous avez plusieurs niveaux, niveau 0, 1, 2, 3. Voilà. Et ça, c'est généralement en nature, mais il y a des stages aussi à Paris. Voilà.
Ok.
En France, des stages en Italie, en Suisse, en Laponie, etc. Mais c'est des stages plus avancés généralement. Et après, ça, c'est pour les présentiels. Pour les en ligne, vous avez les formations en ligne, effectivement. Si vous êtes plutôt vidéo, c'est les formations en ligne de respiration qui vont vous intéresser. Il y a les niveaux 1 et les niveaux 2. Voilà, vous allez voir ça sur les sites. Et après, il y a deux livres. Les deux livres, c'est la version papier des deux formations en ligne. Donc, si vous êtes plutôt lecture, il y a les livres. Si vous êtes plutôt vidéo, il y a les formations en ligne. Si vous êtes plutôt à découverte, curiosité, il y a la chaîne YouTube avec beaucoup de tutoriels gratuits aussi pour vous rendre un peu compte de l'univers Inspire et de tout ce qu'on fait, parce qu'on fait effectivement plusieurs choses. Et donc, vous pouvez nous apprendre à nous connaître aussi par la chaîne YouTube Inspire Potential où il y a plein de choses à faire.
Super Léo. Merci infiniment pour la qualité des informations que tu as apportées. Est-ce que tu as potentiellement un dernier mot à dire, un élément recommandé ou autre avant de laisser nos auditeurs?
On a dit plein de choses et après il y a encore plein de choses à dire, mais
il y en a plein.
Déjà,
on pourra faire l'épisode 2 si tu le souhaites à l'occasion.
Voilà, si vous voulez,
tu es le bienvenu.
L'épisode 2, si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire à Jérémy, on pourra aller voir. Mais déjà, si effectivement on apprend à aimer une pratique, on va plus facilement l'inclure. Pour apprendre à l'aimer, il faut aussi comprendre pourquoi c'est utile pour nous, en quoi ça va nous aider à accomplir nos projets et à accomplir nos vies. Mais moi, c'était vraiment ça le facteur déclencheur pour me permettre de passer à la pratique. Donc, trouvez peut-être quelque chose qui vous intéresse fortement et dans lequel vous voyez que ce travail peut vous aider. Alors là, ça va vraiment vous aider à vous motiver à pratiquer cela. Sinon, ça risque d'être un peu lourd.
Ok. Eh bien, encore une fois, merci Léo. Comme tu l'as très bien suggéré, tu es le bienvenu à nouveau sur la chaîne pour parler d'autres aspects de la respiration.
Avec plaisir,
et,
merci
à nouveau, pour les personnes qui veulent en savoir plus, tous les éléments seront évidemment présents en ressources, donc soit sous l'épisode audio, soit sous l'épisode vidéo. Merci encore Léo et à très bientôt du coup pour la suite des aventures, on va dire.
Merci.
Ciao. À plus. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Avant de vous laisser, rappelez-vous que vous pouvez télécharger le résumé des actions, des outils, des stratégies et des ressources de cet échange en cliquant sur le premier lien présent en description. À très bientôt.